Alexandre Dumas, Le Collier de la Reine, tome 3, chapitre 1er, L'Observatoire, les deux voisines. Oliva se mit au lit après le départ de la femme de chambre que lui envoyait Cagliostro. Elle dormit peu. Les pensées de toute nature qui naissaient de son entretien avec le comte ne lui donnèrent que des rêves éveillés, inquiétudes somnolentes. On est plus heureux de longtemps quand on est trop riche ou trop tranquille après avoir été trop pauvre ou trop agité. Oliva plaignit Beausire. Elle admira le comte, qu'elle ne comprenait pas, elle ne le croyait plus timide, elle ne le soupçonnait pas insensible. Elle eut fort peur d'être troublée par quelques sylphes dans son sommeil, et les moindres bruits du parquet lui causèrent l'agitation connue de toute héroïne de roman qui couche dans la tour du Nord. Avec l'aube s'enfuirent cette erreur qui n'était pas sans charme. Nous qui ne craignons pas d'inspirer des soupçons à M. Beausire, nous pouvons hasarder que Nicole n'entrevit pas l'heure de la parfaite sécurité sans un petit reste de dépit coquet, nuance intraduisible pour tout pinceau qui n'a pas signé Watteau, pour toute plume qui n'a pas signé Marivaux ou Crébillon fils. Au jour, elle se permit de dormir, savourant la volupté d'absorber dans sa chambre fleurie les rayons pourprés du soleil levant, de voir les oiseaux courir sur la petite terrasse de cette fenêtre où leurs ailes frôlaient avec des bruits charmants les feuilles des rosiers et les fleurs des jasmins d'Espagne. Et ce fut tard, bien tard, qu'elle se leva, quand 2 ou 3 heures d'un sommeil suave eurent posé sur ses paupières, quand, bercée entre les bruits de la rue et les engourdissements veloutés du repos, elle se sentit assez forte pour rechercher le mouvement, trop forte pour demeurer gisante et oisive. Alors elle courut tous les coins de cet appartement nouveau, dans lequel cet incompréhensible Sylve n'avait pas même, l'ignorant qu'il était, pu trouver une trappe pour venir glisser autour du lit en battant les ailes, et cependant les Sylphes en ce temps-là, grâce au comte de Gabalis, n'avaient rien perdu de leur innocente réputation. Oliva surprit les richesses de son logis dans la simplicité de l'imprévu. Ce ménage de femme avait commencé par être un mobilier d'homme. On y trouvait tout ce qui fait aimer la vie. On y trouvait surtout le grand jour et le grand air qui changeraient les cachots en jardin si jamais l'air et le jour pénétraient dans une prison. Dire la joie enfantine, c'est-à-dire parfaite, avec laquelle Oliva courut à la terrasse, se coucha sur les dalles au milieu des fleurs et des mousses, semblable à une couleuvre qui sort du nid, nous le ferions certainement si nous n'avions pas à peindre ses étonnements chaque fois qu'un mouvement lui découvrait un nouveau spectacle. D'abord couchée, comme nous venons de le dire, afin de ne pas être vue du dehors, elle regarda entre les barreaux du balcon les cimes des arbres des boulevards, les maisons du quartier Popincourt et les cheminées, océans brumeux dont les vagues inégales s'étageaient à sa droite. Inondée de soleil, l'oreille tendue au bruit des carrosses roulant, un peu rare il est vrai, mais enfin roulant sur le boulevard, elle demeura ainsi très heureuse pendant 2 heures. Elle déjeuna même du chocolat que lui servit sa femme de chambre et lut une gazette avant d'avoir songé à regarder dans la rue. C'était un dangereux plaisir. Les limiers de M. de Crosne, ces chiens humains qui chassent le nez en l'air, pouvaient la voir. Quel épouvantable réveil après un sommeil si doux! Mais cette position horizontale ne pouvait durer, toute bonne qu'elle fût. Nicole se haussa sur un coude. Et alors elle vit les noyers de Ménilmontant, les grands arbres du cimetière, les myriades de maisons de toutes couleurs qui montaient au revers du coteau depuis Charonne jusqu'à Butte-Chaumont, dans des bouquets de verdure ou sur les tranches gypseuses des falaises revêtues de bruyères et de chardons. Ça et là, dans les chemins, grêle ruban ondulant au col de ces montagnettes, dans les sentes des vignes, sur les routes blanches, se dessinaient de petits êtres vivants, paysans trottant sur leurs ânes, enfants penchés sur le champ que l'on sarcle, vigneronnes découvrant le raisin au soleil. Cette rusticité charma Nicole, qui avait toujours soupiré après la belle campagne de Tavernet, depuis qu'elle avait quitté cette campagne pour ce Paris tant désiré. Elle finit pourtant par se rassasier de la campagne, et comme elle avait pris une position commode et sûre dans ses fleurs, comme elle savait voir sans risquer d'être vue, elle abaissa ses regards de la montagne à la vallée, de l'horizon lointain aux maisons en face. Partout, c'est-à-dire dans l'espace que peuvent embrasser trois maisons, Oliva trouva les fenêtres closes ou peu avenantes. Ici, trois étages habités par de vieux rentiers, accrochant des cages au dehors ou nourrissant des chats à l'intérieur. Là, quatre étages dont l'Auvergnat, supérieur habitant, arrivait seul à portée de la vue, les autres locataires paraissant être absents, partis pour une campagne quelconque. Enfin, un peu sur la gauche, à la troisième maison, des rideaux de soie jaune, des fleurs, et, comme pour meubler ce bien-être, un fauteuil moelleux qui semblait, près de la fenêtre, attendre son rêveur ou sa rêveuse. Oliva crut distinguer dans cette chambre, dont le soleil faisait ressortir la noire obscurité, comme une ombre ambulante à mouvements réguliers. Elle borna là son impatience, se cacha mieux encore qu'elle n'avait fait jusque-là, et appelant sa femme de chambre, entama une conversation avec elle pour varier les plaisirs de la solitude par ceux de la société d'une créature pensante et parlante surtout. Mais la femme de chambre fut réservée contre toutes les traditions. Elle voulut bien expliquer à sa maîtresse Belleville, Charonne et le père Lachaise. Elle dit le nom des églises de Saint-Ambroise et de Saint-Laurent. Elle démontra la courbe du boulevard et son inclinaison vers la rive droite de la Seine. Mais quand la question tomba sur les voisins, la femme de chambre ne trouva pas une parole. Elle ne les connaissait pas plus que sa maîtresse. L'appartement clair-obscur aux rideaux de soie jaune ne fut pas expliqué à Oliva. Rien sur l'ombre ambulante, rien sur le fauteuil. Si Oliva n'eut pas la satisfaction de connaître sa voisine d'avance, au moins put-elle se promettre de faire sa connaissance par elle-même. Elle renvoya la trop discrète servante pour se livrer sans témoin à son exploration. L'occasion ne tarda pas à se présenter. Les voisins commencèrent à ouvrir leurs portes, à faire leur sieste après le repas, à s'habiller pour la promenade de la place royale ou du chemin vert. Oliva les compta. Ils étaient six, bien assortis dans leur dissemblance, comme il convient à des gens qui ont choisi la rue Saint-Claude pour leur demeure. Oliva passa une partie de la journée à voir leurs gestes, à étudier leurs habitudes. Elle les passa tous en revue, à l'exception de cette ombre agitée qui, sans montrer son visage, était venue s'ensevelir dans le fauteuil près de la fenêtre et s'absorber dans une immobile rêverie. C'était une femme. Elle avait abandonné sa tête à sa coiffeuse qui, pendant une heure et demie, avait bâti sur le crâne et les tempes un de ces édifices babyloniens dans lesquels entraient les minéraux, les végétaux, dans lesquels fussent entrés les animaux si Léonard s'en fût mêlé, et si une femme de cette époque eût consenti à faire de sa tête une arche de Noé avec ses habitants. Puis cette femme, coiffée, poudrée, blanche d'ajustement et de dentelle, s'était réinstallée dans son fauteuil, le col étagé par des oreillers assez durs pour que cette partie du corps soutînt l'équilibre du corps entier et permît au monument de la chevelure de demeurer intacte sans souci des tremblements de terre qui pouvaient agiter la base. Cette femme immobile ressemblait à ces dieux indiens calés sur leur siège, l'œil fixe grâce à la fixité de la pensée roulant seul dans son orbite. Selon les besoins du corps ou les caprices de l'esprit, sentinelle et bon serviteur actif, il faisait à lui seul tout le service de l'idole. Oliva remarqua combien cette dame ainsi coiffée était jolie, combien son pied, posé sur le bord de la fenêtre et balancé dans une petite mule de satin rose, était délicat et spirituel. Elle admira le tour du bras et celui de la gorge qui repoussait le corset et le peignoir. Mais ce qui frappa par-dessus tout, ce fut cette profondeur de la pensée, toujours tendue vers un but invisible et vague, pensée tellement impérieuse qu'elle condamnait le corps tout entier à l'immobilité, qu'elle l'annihilait par sa volonté. Cette femme, que nous n'avons pas reconnue et qu'Oliva ne pouvait reconnaître, ne soupçonnait pas qu'on pût la voir. En face de ces fenêtres, jamais fenêtre ne s'était ouverte. L'hôtel de monsieur de Cagliostro n'avait jamais, en dépit des fleurs que Nicole avait trouvées, des oiseaux qu'elle avait vus voler, découvert ses secrets à personne, et à part les peintres qu'il avait restaurés, nul vivant ne s'était fait voir à la fenêtre. Pour expliquer ce phénomène, contredit par la prétendue habitation de Cagliostro dans le pavillon, un mot suffira. Le comte avait, pendant la soirée, fait préparer ce logement pour Oliva, comme il l'eût fait disposer pour lui. Il s'était, pour ainsi dire, menti à lui-même, tant ses ordres avaient été bien exécutés. La dame à la belle coiffure restait donc ensevelie dans ses pensées. Oliva se figura que cette belle personne, rêvant ainsi, rêvait à ses amours traversés. Sympathie dans la beauté, sympathie dans la solitude, dans l'âge, dans l'ennui, que de liens pour attacher l'une à l'autre deux âmes qui peut-être se cherchaient grâce aux combinaisons mystérieuses, irrésistibles et intraduisibles du destin. Dès qu'elle eut vu cette solitaire pensive, Oliva n'en put détacher ses yeux. Il y avait une sorte de pureté morale dans cette attraction de femme vers la femme. Ces délicatesses sont plus communes qu'on ne croit généralement parmi ces malheureuses créatures dont le corps est devenu l'agent principal dans les fonctions de la vie. Pauvres exilées du paradis spirituel, elles regrettent les jardins perdus et les anges souriants qui se cachent sous leurs mystiques ombrages. Oliva crut voir une sœur de son âme dans la belle recluse. Elle construisit un roman pareil à son roman, se figurant la naïve fille qu'on ne pouvait être jolie, élégante et demeurer perdue rue Saint-Claude sans avoir quelque grave inquiétude au fond de son cœur. Quand elle lui eut forgé d'airain et de diamant sa fable romanesque, Oliva, comme toutes les natures exceptionnelles, se laissa enlever par sa féerie. Elle prit des ailes pour courir dans l'espace au-devant de sa compagne, à qui, dans son impatience, elle eût voulu voir pousser des ailes pareilles aux siennes. Mais la dame au monument ne bougeait pas, elle semblait sommeiller sur son siège. 2 heures s'étaient écoulées sans qu'elle eût oscillé d'un degré. Oliva se désespérait. Elle n'eût pas fait pour Adonis ou pour Beaucir le quart des avances qu'elle fit pour l'inconnu. De Guerlas, passant de la tendresse à la haine, elle ouvrit et referma 10 fois sa croisée. 10 fois elle effaroucha les oiseaux dans les feuillages et fit des gestes télégraphiques tellement compromettants que le plus obtus des instruments de monsieur de Crone, s'il eût passé sur le boulevard ou dans le bout de la rue Saint-Claude, n'eût pas manqué de les apercevoir et de s'en préoccuper. Enfin, Nicole arriva à se persuader que la dame aux belles nattes avait bien vu tous ses gestes, compris tous ses signaux, mais qu'elle les méprisait, qu'elle était vaine ou qu'elle était idiote. Idiote, avec des yeux si fins, si spirituels, avec un pied si mobile, une main si inquiète. Impossible. Vaine, oui, vaine, comme pouvait l'être à cette époque une femme de la grande noblesse envers une bourgeoise. Oliva, démêlant dans la physionomie de la jeune femme tous les caractères de l'aristocratie, conclut qu'elle était orgueilleuse et impossible à émouvoir. Elle renonça. Tournant le dos avec une bouderie charmante, elle se remit au soleil, cette fois le soleil couchant, pour reprendre la société de ses fleurs, complaisantes compagnes qui, nobles aussi, élégantes aussi, poudrées aussi, coquettes aussi comme les plus grandes dames, se laissent cependant toucher, respirer, et rendent en parfum, en fraîcheur et en frissonnant contact le baiser d'amis ou le baiser d'amour. Nicole ne réfléchissait pas que cette prétendue orgueilleuse était Jeanne de Valois, comtesse de La Motte, qui, depuis la veille, cherchait une idée. Que cette idée avait pour but d'empêcher Marie-Antoinette et le cardinal de Rohan de se voir, qu'un intérêt plus grand encore exigeait que le cardinal, tout en ne voyant plus la reine dans le particulier, crût fermement qu'il la voyait toujours et que, par conséquent, il se contenta de cette vision et cessa de réclamer la vue réelle. idées graves, bien légitimes excuses de cette préoccupation d'une jeune femme à ne pas remuer la tête pendant deux mortelles heures. Si Nicole eût su tout cela, elle ne se fût pas, de colère, réfugiée au milieu de ses fleurs. Elle n'eût pas, en s'y plaçant, chassé hors du balcon un pot de fraxinelle qui alla tomber dans la rue déserte avec un fracas épouvantable. Oliva, effrayée, regarda vite quels dégâts elle avait pu causer. La dame préoccupée se réveilla au bruit, vit le pot sur le pavé, remonta de l'effet à la cause, c'est-à-dire que ses yeux remontèrent du pavé de la rue à la terrasse de l'hôtel. Et elle vit Oliva. En la voyant, elle poussa un cri sauvage, un cri de terreur, un cri qui se termina par un mouvement rapide de tout ce corps si raide et si glacé naguère. Les yeux d'Oliva et ceux de cette dame se rencontrèrent enfin, s'interrogèrent, se pénétrèrent les uns les autres. Jeanne s'écria d'abord « La reine !» Puis, tout à coup, joignant les mains et fronçant le sourcil, sans oser remuer, de peur de faire fuir la vision étrange, « Oh » murmura-t-elle, « je cherchais un moyen, le voilà !» En ce moment, Oliva entendit un bruit derrière elle et se retourna vivement. Le comte était dans sa chambre, il avait remarqué l'échange des reconnaissances. « Elles se sont vues, » dit-il. Oliva quitta brusquement le balcon. À partir de ce moment où les deux femmes s'étaient aperçues, Oliva, déjà fascinée par la grâce de sa voisine, n'affecta plus de la dédaigner, et se tournant avec précaution au milieu de ses fleurs, elle répondit par des sourires aux sourires qu'on lui adressait. Cagliostro, en la visitant, n'avait pas manqué de lui recommander la circonspection la plus grande. Surtout, avait-il dit, ne voisinez pas. Ce mot avait tombé comme un grêlon sinistre sur la tête d'Oliva, qui déjà se faisait une douce occupation des gestes et des saluts de sa voisine. Ne pas voisiner, c'était tourner le dos à cette charmante femme dont l'œil était si brillant et si doux, dont chaque mouvement renfermait une séduction. C'était renoncer à entretenir un commerce télégraphique sur la pluie et le beau temps, c'était rompre avec une amie, car l'imagination d'Oliva courait à ce point que Jeanne était déjà pour elle un objet curieux et cher. La sournoise répondit à son protecteur qu'elle se garderait bien de lui désobéir et qu'elle n'entreprendrait aucun commerce avec le voisinage, mais il ne fut pas sitôt parti qu'elle s'arrangea sur le balcon de manière à absorber toute l'attention de sa voisine. Celle-ci, on peut le croire, ne demandait pas mieux, car aux premières avances qui lui furent faites, elle répondit par des saluts, par des baisers jetés du doigt. Oliva correspondit de son mieux à ces aimables avances. Elle remarqua que l'inconnu ne quittait plus la fenêtre, et que, toujours attentive à envoyer soit un adieu quand elle sortait, soit un bonjour quand elle rentrait, elle semblait avoir concentré toutes ses facultés aimantes sur le balcon d'Oliva. Un pareil état de choses devait être suivi promptement d'une tentative de rapprochement. Voilà ce qui arriva. Cagliostro, en venant voir Oliva deux jours après, se plaignit d'une visite qui aurait été rendue à l'hôtel par une personne inconnue. « Comment cela ? » fit Oliva, un peu rougissante. « Oui, répondit le comte, une dame très jolie, jeune, élégante, s'est présentée à parler, un valet, attiré par son insistance à sonner. » Elle a demandé à cet homme qui pouvait être une jeune personne habitant le pavillon du troisième. « Votre appartement, ma chère, cette femme vous désignait assurément. Elle voulait vous voir, elle vous connaît donc, elle a donc sur vous des vues. Vous êtes donc découverte. Prenez garde, la police a des espions femmes comme elle a des agents hommes, et je vous préviens que je ne pourrais refuser de vous rendre si monsieur de Crone vous demande à moi. » Oliva, au lieu de s'effrayer, reconnut vite le portrait de sa voisine. Elle lui sut un gré infini de sa prévenance et, bien résolue à l'en remercier par tous les moyens en son pouvoir, elle dissimula au comte. « Vous ne tremblez pas ?» dit Cagliostro. « Personne ne m'a vu, » répliqua Nicole. Alors ce n'est pas vous qu'on voulait voir. Je ne le pense pas. Cependant, pour deviner qu'il y a une femme dans ce pavillon, ah, prenez garde, prenez garde. Que, monsieur le comte, dit Oliva, comment pourrais-je craindre? Si l'on m'a vu, ce que je ne crois pas, on ne me verra plus. Et si l'on me revoyait, ce serait de loin, car la maison est impénétrable, n'est-ce pas? Impénétrable, c'est le mot, répondit le comte, car à moins d'escalader la muraille, ce qui n'est pas aisé, ou bien d'ouvrir la petite porte d'entrée avec une clé comme la mienne, ce qui n'est pas très facile, attendu que je ne la quitte pas. En disant ces mots, il montrait la clé qui lui servait à entrer dans la porte basse. Or, continua-t-il, comme je n'ai pas intérêt à vous perdre, je ne prêterai la clé à personne, et comme vous n'auriez aucun bénéfice à tomber aux mains de monsieur de Crone, vous ne laisserez pas escalader votre muraille. Ainsi, cher enfant, vous êtes prévenu, arrangez vos affaires comme il plaira. Oliva se répandit en protestations de tout genre et se hâta d'y conduire le comte, qui n'insista pas trop pour demeurer. Le lendemain, dès 6 heures du matin, elle était à son balcon, humant l'air pur des coteaux voisins et dardant un œil curieux sur les fenêtres closes de sa courtoise amie. Celle-ci, d'ordinaire éveillée à peine vers les 11 heures, se montra dès qu'Oliva parut. On eût dit qu'elle-même guettait, derrière les rideaux, l'occasion de se faire voir. Les deux femmes se saluèrent, et Jeanne, s'avançant hors de la fenêtre, regarda partout si quelqu'un pouvait l'entendre. Nul ne parut, non seulement la rue, mais les fenêtres des maisons étaient désertes. Elle mit alors ses deux mains sur sa bouche en guise de porte-voix, et de cette intonation vibrante et soutenue, qui n'est pas un cri, mais qui porte plus loin que l'éclat de la voix, elle dit à Oliva « J'ai voulu vous rendre visite, madame !»« Chut !» fit Oliva en se reculant avec effroi, et elle appliqua un doigt sur ses lèvres. Jeanne, à son tour, fit un plongeon derrière ses rideaux, croyant à la présence de quelqu'un discret. Mais presque aussitôt, elle reparut, rassurée par le sourire de Nicole. « On ne peut donc vous voir, » reprit-elle. « Hélas, » fit Oliva du geste. « Attendez, » répliqua Jeanne, « peut-on vous adresser des lettres ?»« Oh non !» s'écria Oliva épouvantée. Jeanne réfléchit quelques moments. Oliva, pour la remercier de sa tendre sollicitude, lui envoya un charmant baiser que Jeanne rendit double. Après quoi, fermant sa fenêtre, elle sortit. Oliva se dit que l'amie avait trouvé quelques nouvelles ressources, son imagination éclatant dans son dernier regard. Jeanne rentra en effet 2 heures après. Le soleil était dans toute sa force, le petit pavé de la rue brûlait comme le sable d'Espagne pendant le fuego. Oliva vit apparaître sa voisine à sa fenêtre avec une arbalète. Jeanne, en riant, fit signe à Oliva de s'écarter. Celle-ci obéit, et riant comme sa compagne, elle se réfugia contre son volet. Jeanne, visant avec soin, lança une petite balle de plomb qui, malheureusement, au lieu de franchir le balcon, vint heurter un des barreaux de fer et tomba dans la rue. Oliva poussa un cri de désappointement. Jeanne, après avoir haussé les épaules avec colère, chercha un moment des yeux son projectile dans la rue, puis disparut pendant quelques minutes. Oliva, penchée, regardait du balcon en bas. Une sorte de chiffonnier passa, cherchant à droite et à gauche. Vit-il ou ne vit-il pas cette balle dans le ruisseau ? Oliva n'en sut rien, elle se cacha même pour n'être pas vue elle-même. Le second effort de Jeanne fut plus heureux. Son arbalète lança fidèlement, au-delà du balcon, dans la chambre de Nicole, une seconde balle autour de laquelle était roulé un billet conçu en ces termes. « Vous m'intéressez, toute belle dame, je vous trouve charmante et vous aime rien qu'à voir. Vous êtes donc prisonnière ? Savez-vous que j'ai en vain essayé de vous visiter? L'enchanteur qui vous garde à vue me laissera-t-il jamais approcher de vous pour vous dire ce que je ressens de sympathie pour une pauvre victime de la tyrannie des hommes? J'ai, comme vous le voyez, l'imagination pour servir mes amitiés. Voulez-vous être mon ami? Il paraît que vous ne pouvez sortir, vous, mais vous pouvez écrire sans doute, et comme moi je sors quand je veux, attendez que je passe sous votre balcon et jetez-moi votre réponse. S'il arrivait que le jeu de l'arbalète fût dangereux et qu'on le découvrît, adoptons alors un moyen de correspondre plus facilement. Laissez pendre du haut de votre balcon à la brune un peloton de fil, attachez-y votre billet, j'y attacherai le mien que vous remonterez sans être vu. Songez que si vos yeux ne sont pas menteurs, je compte sur un peu de cette amitié que vous m'avez inspirée et qu'à nous deux nous vaincrons l'univers. Signé votre ami. Post-scriptum, avez-vous vu quelqu'un ramasser mon premier billet? Jeanne ne signait pas, elle avait même complètement déguisé son écriture. Oliva tressaillit de joie en recevant le billet. Elle répondit par les lignes suivantes. « Je vous aime comme vous m'aimez. Je suis en effet une victime de la méchanceté des hommes, mais celui qui me retient ici est un protecteur et non un tyran. Il vient me visiter secrètement une fois par jour. » Je vous expliquerai tout cela plus tard. J'aime mieux le billet remonté au bout d'un fil que l'arbalète. Hélas, non, je ne puis sortir, je suis sous clé, mais c'est pour mon bien. Oh, que j'aurais de choses à vous dire si j'avais jamais le bonheur de causer avec vous. Il y a tant de détails qu'on ne peut écrire. Votre premier billet n'a été ramassé par personne, sinon par un vilain chiffonnier qui passait, mais ces gens-là ne savent pas lire, et pour eux, du plomb est du plomb. Signé votre ami, Oliva Le Guay. Oliva signait de toutes ses forces. Elle fit à la comtesse le geste de dévider un fil, puis, attendant que le soir fût venu, elle laissa tomber la pelote en bas dans la rue. Jeanne était sous le balcon, attrapa le fil et ôta le billet, tout mouvement que sa correspondante perçut par le moyen du fil conducteur, et elle rentra chez elle pour lire. Une demi-heure après, elle attachait au bienheureux cordon un billet contenant ces mots. « On fait ce qu'on veut, vous n'êtes pas gardé à vue, puisque je vous vois toujours seul. » Donc, vous devez avoir toute liberté pour recevoir les gens, ou plutôt pour sortir vous-même. Comment votre maison ferme-t-elle? Avec une clé? Qui a cette clé? L'homme qui vient vous visiter, n'est-ce pas? Cette clé le garde-t-il si opiniâtrement que vous ne puissiez la dérober ou en prendre l'empreinte? Il ne s'agit pas de mal faire, il s'agit de vous procurer quelques heures de liberté, de douces promenades, au bras d'une amie qui vous consolera de tous vos malheurs et vous rendra plus que vous n'avez perdu. Il s'agit même, si vous le voulez absolument, de la liberté tout entière. Nous traiterons ce sujet dans tous ses détails dans la première entrevue que nous aurons. Oliva dévora ce billet. Elle sentit monter à sa joue la fièvre de l'indépendance, à son cœur la volupté du fruit défendu. Elle avait remarqué que le comte, chaque fois qu'il entrait chez elle, lui apportant soit un livre, soit un bijou, déposait sa petite lanterne sourde sur un chiffonnier, sa clé sur la lanterne. Oliva prépara d'avance un morceau de cire pétrie sur laquelle elle prit l'empreinte de sa clé dès la première visite de Cagliostro. Celui-ci ne tourna pas la tête une seule fois, tandis qu'elle accomplissait cette opération. Il regardait au balcon les fleurs nouvellement écloses. Oliva put donc, sans inquiétude, mener à bien son projet. Le comte parti, Oliva fit descendre dans une boîte l'empreinte de la clé, que Jeanne reçut avec un petit billet, et dès le lendemain, vers midi, l'arbalète, moyen extraordinaire et expéditif, moyen qui était à la correspondance par le fil, ce que le télégraphe était au courrier à cheval, l'arbalète lança un billet ainsi conçu. « Ma toute chère, ce soir à 11 heures, quand votre jaloux sera parti, vous descendrez, vous tirerez les verrous et vous vous trouverez dans les bras de celle qui se dit votre tendre amie. » Oliva frissonna de joie plus qu'elle n'avait jamais fait au plus tendre billet de Gilbert dans le printemps des premières amours et des premiers rendez-vous. Elle descendit à 11 heures sans avoir remarqué aucun soupçon chez le comte. Elle trouva en bas Jeanne, qui l'étreignit tendrement, la fit monter dans un carrosse arrêté au boulevard et, tout étourdie, toute palpitante, tout enivrée, fit avec son amie une promenade de 2 heures pendant laquelle secrets, baisers, projets d'avenir s'échangèrent sans relâche entre les deux compagnes. Jeanne conseilla la première à Oliva de rentrer pour n'éveiller aucun soupçon chez son protecteur. Elle venait d'apprendre que ce protecteur était Cagliostro. Elle redoutait le génie de cet homme et ne voyait de sûreté pour ses plans que dans le plus profond mystère. Oliva s'était livrée sans réserve. Beaucire, la police, elle avait tout avoué. Jeanne s'était donnée pour une fille de qualité, vivant avec un amant à l'insu de sa famille. L'une savait tout, l'autre ignorait tout. Telle était l'amitié jurée entre ces deux femmes. À dater de ce jour, elles n'eurent plus besoin de l'arbalète ni même du fil. Jeanne avait sa clé. Elle faisait descendre Oliva selon son caprice. Un souper fin, une furtive promenade, étaient les appâts auxquels Oliva se laissait toujours prendre. « Monsieur de Cagliostro ne découvre-t-il rien ?» demandait Jeanne, inquiète parfois. « Lui, en vérité, je le lui dirais qu'il ne voudrait pas me croire, » répondait Oliva. 8 jours de ces escapades nocturnes firent une habitude, un besoin et bien plus un plaisir. Au bout de 8 jours, le nom de Jeanne se trouvait sur les lèvres d'Oliva bien plus souvent que ne s'y était jamais trouvé celui de Gilbert ou celui de Beaucire.